Décryptage.
Aurélien Devernoy.
Tech for good, but tech for all. Donc la technologie, bien sûr, c'est pour le bien de tous, mais c'est aussi pour tout un chacun, de manière à ce que tout le monde ait accès à la technologie, parce que c'est ce qui va changer, c'est ce qui va réduire les inégalités.
La déclaration est signée Maurice Lévy, cofondateur du salon VivaTech qui ouvre ses portes demain. La technologie pour faire le bien de tous et toutes, vaste programme discuté en ce moment même au Palais de l'Élysée, où Emmanuel Macron recevait à la fois des dirigeants politiques et des patrons de géants du numérique. À cette occasion a été lancé l'appel de Christ Church pour lutter contre la diffusion de contenus haineux en ligne. Mais le secteur des nouvelles technologies doit aussi répondre aux questions de plus en plus pressantes autour de la protection des données ou de la remise en cause du droit du travail lié au modèle économique des Uber, Amazon et autres Deliveroo. Vaste programme donc, on l'a dit, et vaste questionnement philosophique quasiment à décrypter. Cela tombe bien, cette émission est là pour ça. Et pour évoquer ce dossier avec nous ce soir, Benjamin Sontag, cofondateur de la Quadrature du Net, association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Lucien Castex, chercheur à l'Université Sorbonne Nouvelle et secrétaire général de l'Internet Society France. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, cet appel de Christchurch a été lancé aujourd'hui. On rappelle le contexte, la diffusion en direct sur les réseaux sociaux des attentats contre trois mosquées de la ville néo-zélandaise en mars dernier. Et les difficultés rencontrées pour empêcher cette vidéo de se maintenir en ligne étaient présents notamment à l'Élysée aux côtés d'Emmanuel Macron, la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, et d'autres chefs d'État et de gouvernement, mais aussi des représentants de fournisseurs d'accès Internet qui se sont d'ailleurs engagés à prévenir le téléchargement de contenus terroristes. Benjamin Sontag, Lucien Castex, cet engagement est-il réalisable?
C'est un vrai problème pour les fournisseurs d'accès Internet, donc les Orange, Free, SFR, tout ça, de pouvoir faire quoi que ce soit avec nos tuyaux, parce que c'est censé être que des tuyaux. Pour pouvoir bloquer quoi que ce soit, il faut qu'ils regardent ce qu'on fait. C'est illégal en droit français. Donc déjà, il va falloir qu'ils fassent quelque chose qui est illégal, d'entrée de jeu.
D'accord, donc il y a déjà un paradoxe.
Déjà, il y a un paradoxe sur les fournisseurs d'accès Internet, ils ne sont pas censés voir ce qu'on fait sur Internet. De la même façon que votre bibliothécaire, il n'est pas censé garder la liste des bouquins que vous avez lus. C'est la vie privée de base, en fait, où la poste n'est pas censée ouvrir les colis.
Alors comment on fait, justement, Lucien Castex?
Alors effectivement, sur cet appel de Christchurch, il y a un certain nombre de questions qui se posent, et notamment les types d'outils qui peuvent être utilisés. Parmi les outils, l'un des outils qui revient le plus souvent, c'est le filtrage. Le filtrage des contenus qui seraient donc identifiés comme de nature terroriste. La problématique qu'il y a, c'est comment est-ce que l'on filtre? Le plus souvent, ça pose des questions d'algorithmes, d'intelligence artificielle, ce qui pose également des questions de biais, ce qui pose également des questions de contrôle et de transparence de ces algorithmes. Il y a un risque de surblocage. Et c'est un risque qui peut potentiellement mettre en péril d'autres droits fondamentaux, premier desquels la liberté d'expression.
Alors c'est un risque pas du tout théorique. Hein. On a déjà constaté des centaines de fois dans YouTube, typiquement je parle de YouTube parce qu'on le connaît bien, des vidéos qui se sont retrouvées bloquées. Le dernier exemple, je vous le donne en mille, c'était une vidéo qu'un citoyen avait fait, qu'il avait publié. Il y a Arte qu'on a repris un bout pour un reportage à eux. Et YouTube qui a ensuite bloqué la vidéo en disant que ça venait d'un reportage d'Arte, qui n'avait pas cité le monsieur. Donc déjà, on a déjà des loops, des boucles comme ça d'atteinte aux droits qui ont lieu tous les jours. Par contre, à l'inverse, tous les jours, on a des citoyens qui signalent des contenus. Alors pas forcément, je parle pas du terrorisme, je parle déjà de contenus haineux sur Internet, d'appels au meurtre, d'appels à la haine, des choses qui sont manifestement illégales en droit français. Et les Facebook, les YouTube n'agissent quasiment jamais. Pourquoi ils n'agissent jamais? Parce que c'est leur fonds de commerce. Leur business, c'est notre attention. Ils nous vendent de la publicité. Enfin, alors, on n'est pas leurs clients, hein. On est leur petit cochon vendu, la viande qui est vendue aux publicitaires. Et donc, ces sociétés, leur business model, c'est de vendre notre attention. S'ils enlèvent ces contenus haineux qui en général font pas mal de public, eh ben, ils ont un problème de business model. Donc, on a une vraie question avec toute leur espèce de volonté, tout un coup, d'aider les États. Depuis quand les boîtes privées sont les amies des États pour, alors, bloqué, on est très 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 méfiant.
Donc dans ce cas-là, on n'est pas dans ce cas précis, parce que c'est vrai qu'il y avait une certaine pression qui s'était exercée sur Facebook, sur YouTube, lors de ces attentats en Nouvelle-Zélande. On n'est pas vraiment dans la tech for good, c'est-à-dire c'est pas vraiment pour le bien commun, c'est plutôt de la tech communication de crise pour ces entreprises qui essaient de limiter les dégâts pour leurs revenus.
Ouais, complètement. C'est pour Google, dont le business model c'est le capitalisme de la surveillance. C'est une espèce de damage control, une espèce d'essayer de tenter de se donner une belle figure, dire qu'ils veulent faire le bien, etc. Bon, enfin, les gens qui analysent de près ce que fait Google au quotidien, pour les citoyens ou pour, enfin, ils font rien. Ils ne font que vendre de la publicité. C'est leur business. Bon, y a rien pour les défendre.
Lucien Castex, c'est du tech-washing?
Alors, je dirais peut-être, pour compléter sur cet aspect, qu'il y a toujours un risque, dès lors que l'on veut réguler, de régulation précipitée. Il y a un risque, le filtrage que je mentionnais tout à l'heure, mais effectivement, il y a un risque potentiellement de déléguer des pans de souveraineté numérique. On voit la question qui se pose dans la proposition de loi, notamment de lutte contre les contenus haineux en ligne. Est-ce que l'on doit laisser un intermédiaire privé, une plateforme par exemple, réguler elle-même les contenus qui seraient de caractère haineux, qui seraient manifestement illicites, de déterminer que de tels contenus le seraient? C'est le rôle du juge. Là encore, il y a un besoin de transparence, il y a un besoin d'auditabilité. Quelque part, c'est le souhait de légitimité et de transparence des plateformes.
Alors, est-ce que, justement, ce problème, ce paradoxe que vous avez soulevé tout de suite, c'est pas lié à l'essence même, par exemple, d'un Facebook, d'un Google, d'un YouTube, qui se sont créés sur une logique, on va dire, d'un discours originel assez libertaire, tout le monde peut aller sur Internet et dire ce qu'il veut, basé sur la liberté d'expression, et puis qui, depuis, s'est transformé en machine qui rapporte beaucoup d'argent, et du coup,
C'est le problème des monopoles. Aujourd'hui, YouTube est un quasi-monopole sur la vidéo en ligne. Facebook est un quasi-monopole sur les réseaux sociaux. Twitter lui partage un petit bout de gâteau, mais c'est vraiment rien. Ces sociétés ont des monopoles de fait, ce qu'on appelle des effets de réseau. Parce qu'en fait, si tous vos amis sont sur Facebook, vous n'allez pas aller sur, je sais pas moi, Diaspora, qui est une alternative décentralisée. Si tous vos amis sont sur Twitter, vous n'allez pas aller sur Mastodon, qui est une autre alternative décentralisée. À la Quadrature, nous, on invite à l'utilisation de ces outils de décentraliser qui évite justement de se mettre entre les mains de grandes sociétés. Au moins, si vous avez des petites communautés autonomes qui peuvent parler entre elles malgré tout, évidemment, sans problème, vous savez, vous avez une espèce d'autonomie, une espèce d'indépendance de ces géants. On n'a pas l'impression d'être, comme je vous disais tout à l'heure, un petit cochon dans un hangar, quoi.
Alors, est-ce que finalement, c'est-il complètement illusoire de se dire ces entreprises, les GAFAM ou d'autres hein, d'ailleurs, c'est illusoire de dire qu'elles peuvent participer grâce à leurs outils technologiques, grâce à ce qu'elles développent, à finalement la participation au bien commun?
Alors, c'est vrai que c'est une question difficile. On va dire, une grande entreprise de l'Internet peut collaborer avec l'État, peut collaborer avec des organisations internationales, avec les parties prenantes de l'Internet. La question qui va se poser, c'est est-ce que cette collaboration est inclusive ? L'une des réserves qu'avait l'Internet Society au niveau de l'appel de Christchurch ou d'autres initiatives, quand bien même parfois allait-elle dans le bon sens, c'est le fait qu'elle n'était pas suffisamment inclusive quant aux parties prenantes qui étaient mobilisées. Par exemple, le fait de demander à la société civile ou à la communauté technique de s'asseoir à la table et de discuter directement avec ces acteurs, tout autant qu'avec les gouvernements, sur comment faire justement pour limiter la diffusion de tels contenus, l'accélération de ces contenus, le fait donc qu'ils soient trop diffusés. Et c'est cette inclusivité et bien sûr, je le répète encore, cette transparence qui rend quelque part à la fois la régulation et une possibilité de coopération possible.
Mais alors, ce qui est paradoxal également, c'est qu'il y a quand même beaucoup de ces grosses sociétés qui ont signé cet appel, donc aujourd'hui à Paris, qui finalement doivent y trouver un intérêt et que dans le même temps, il y a d'autres entreprises, par exemple les réseaux sociaux chinois, qui ont refusé de signer cet appel, et le pays qui est le pays d'origine des GAFAM, les États-Unis, qui refuse également de signer cet appel. Pourquoi finalement? Parce que on a l'impression que ça arrange tout le monde.
Déjà les pays ont leur géopolitique à eux, ils ont leur façon de procéder à eux. Les entreprises, elles, comme on disait tout à l'heure, elles sont vraiment dans le contrôle de la qualité de leur image. Faut que Google apparaisse comme étant un gentil. Faut que Facebook apparaisse comme étant un gentil. Ce qu'ils font derrière peut n'avoir rien à voir. Ça va toujours, ils auront donné patte blanche, médiatique, etc. Le gouvernement fait pareil très régulièrement. Moi, j'entends très régulièrement, il va y avoir un projet de loi pour ceci, pour cela. On se rend compte que 2 ans après, le projet de loi, il a à peine fait une passée et demie au Sénat et à l'Assemblée. Il n'est pas là d'arriver dans le droit. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est le problème de ces géants du numérique, c'est que le droit français ne s'applique pas pour eux. Ça fait plus d'un an que la Quadrature a déposé des plaintes contre Facebook, Google, pour le non-respect des données personnelles. Le dossier a à peine avancé. Donc, ça sert à rien d'essayer de faire des vœux pieux, de montrer des jolis systèmes de filtrage avec des IA, avec tout ce qu'ils veulent, s'ils respectent pas déjà la base du droit qui est de respecter nos données personnelles. Tant qu'on n'aura pas armé de crocs sévèrement armé la CNIL, tant qu'on n'aura pas sévèrement armé les tribunaux pour lutter contre les abus de ces grandes sociétés, elles feront du tech washing, elles feront, elles donneront l'impression d'être toutes gentilles, et puis elles feront rien derrière, parce que il n'y a pas de punition. Tant qu'il n'y a pas de punition, une société, elle fait ce qu'elle est faite de, ce qu'elle a dans son gène, Facebook, Google, leur gène, c'est la vente de publicité. Et l'exploitation de données personnelles. Donc, il n'y aura rien d'autre. Enfin, faut, mais on s'attend à rien.
Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, une part stratégique de la décision des États-Unis en tant que pays de ne pas signer, justement, pour se permettre de garder une marge de manœuvre en cas de décision en Europe de réguler plus strictement ce type de choses, et notamment les données personnelles? Ça a déjà été le cas, puisqu'on a réformé
les États-Unis
avec
sont moins fauchetons que nous, quelque part. Ils sont plus francs du collier. Je veux dire, ils ont la liberté d'expression de manière quasi illimitée dans ce pays. Il l'assume, je veux dire. Voilà, c'est tout.
Oui, mais il y a eu, malgré tout, au niveau de l'Union européenne, il y a eu une réforme sur les données personnelles et le fait qu'elles ne sont pas censées partir de manière totalement inconsidérée.
Et pour l'instant, la CNIL ne fait pas grand-chose. Nos plaintes sont pour l'instant laissées lettre morte. Alors, elles ont bien été enregistrées, ça s'instruit tranquillement. Sauf que la plupart de ces affaires vont se retrouver à la CNIL irlandaise, qui est clairement pieds et poings liés, parce que en Irlande, ces sociétés font de la défiscalisation en masse.
Oui,
donc
l'Irlande
n'a aucun intérêt à faire des amendes de 4% de leur chiffre d'affaires à des Google ou à des Facebook. Donc on sent bien qu'on est dans un jeu géopolitique où la pression est énorme et où faire des déclarations de Christchurch avec 24 pays qui n'engagent personne, ça ne sert à rien. À la Quadrature, on invite vraiment à ce que la CNIL se serve de ses pouvoirs régaliens, les CNIL européennes se servent de leurs pouvoirs pour aller demander à la société de respecter le droit. Après, quand ils respecteront nos données personnelles, on parlera éventuellement de c'est quoi les contenus qu'il y a chez eux. Et encore, nous, ça nous intéresse pas trop. Nous, on préfère favoriser des alternatives décentralisées. Comme ça, on améliore l'écosystème numérique et on évite de dépendre de ces grandes plateformes.
J'entends bien la nécessité d'éviter les situations de monopole. Malgré tout, on va revenir à notre sujet central, la question du bien commun, Lucien Castex. On peut, finalement, tirer un bien commun de ces rapports de force, de ces tentatives, on va dire, de certains pays, notamment en Europe, d'essayer de réguler un petit peu tout ça.
Alors effectivement, le RGPD, hein, qui est en vigueur, qui est entré en application, permet quelque part de responsabiliser les acteurs. C'est vrai qu'il y a des questions au niveau de son application. Il y a souvent qui est rappelé l'extraterritorialité de ce texte, mais il y a également un certain nombre de questions qui se posent. J'en cite une très rapidement, celle de l'intérêt légitime. On dit que le consentement est la base principale du RGPD, c'est vrai, mais il y a également l'intérêt légitime qui peut servir à justifier un traitement de données personnelles. La définition de l'intérêt légitime est parfois un peu lâche, un peu générale, et ne permet pas, dans certains cas, d'appréhender ce qu'est vraiment le seuil qui permet de définir ce qu'est justement cet intérêt légitime. Plus largement, il y a une question de confiance. Et cette question de confiance, c'est de dire que les utilisateurs, s'ils ne se sentent pas en confiance avec le numérique, pour revenir à votre question de la technologie pour le bien commun, s'ils ne se sentent pas en confiance avec le numérique, est-ce qu'ils ne vont pas changer leurs pratiques? Est-ce qu'il y a possibilité de changer ces pratiques, considérant justement que tel ou tel outil, que ce soit une plateforme ou que ce soit par exemple un objet connecté, ne soit pas suffisamment sûr au regard de questions de cybersécurité, de protection de la vie privée ou des données personnelles?
Mais est-ce que ça, justement, ça ne passe pas en amont par vraiment tout un travail d'éducation des consommateurs de ces entreprises de nouvelles technologies pour être conscients, être mis à jour finalement sur ce qui est risqué et sur ce qui finalement l'est moins?
Bah, ça se joue sur tous les plans, clairement. Enfin, à la Quadrature, par exemple, on est très technophile et on se rend compte que de plus en plus dans la liste de nos membres, quand on en parle entre nous, on est de moins en moins fan du dernier gadget. Pour plein de raisons. La première, c'est que ce gadget, on sait qu'il va pas être mis à jour dans les 6 mois. Et qu'on va se faire retrouver avec nos données personnelles tout nu sur Internet. C'est quand même un petit peu embêtant. Deuxième chose, c'est que ces gadgets, souvent, écologiquement, c'est un désastre. C'est ici des terres rares qui sont récoltées dans des pays, genre pays d'Afrique, Chine, où ils sont récoltés dans des conditions de travail absolument effroyables, des conditions écologiques absolument effroyables. Il y a une pérennité zéro. On sait que dans 20 ans, ces matériaux, on aura de plus en plus de mal à les trouver, voire déjà un peu aujourd'hui. Donc il y a rien pour plaire. Et on ajoute à ça qu'en effet, ces sociétés, il y a très peu de régulation et il y a très peu de responsabilité quand elles font n'importe quoi avec nos données. On le voyait tout à l'heure, il y a très peu d'applications de RGPD. Donc, tant que les sociétés n'ont pas vu même d'autres boîtes qu'elles se prendre des coups parce qu'elles ont été trop loin du respect du droit, on n'arrivera pas à ce qu'elles aient peur du droit et qu'elles aient envie de le respecter. C'est-à-dire, c'est, il y a une histoire de rapport de force. Et aujourd'hui,
et d'exemplarité, finalement.
Et d'exemplarité. Et aujourd'hui,
si,
le rapport de force,
si
c'est clairement
les grandes entreprises ne sont pas exemplaires, forcément, les start-up qui se montent, etc., vont avoir tendance à ne pas l'être non plus.
Tout à fait. Et d'ailleurs, l'esprit start-up lui-même pose problème. Si on va à la racine du débat, l'esprit start-up, c'est quoi? La plupart du temps, c'est quelques fondateurs qui espèrent soit faire une grosse boîte, tout à coup devenir une licorne, une boîte qui est valorisée à 1 milliard d'euros, c'est-à-dire faire plein de blé, ou se faire racheter pour des sommes équivalentes. Et donc, finalement, ces gens, leur seul but, finalement, quand on interroge la plupart des start-upers, c'est de faire de l'argent. C'est pas du tout d'avoir des gens avec qui travailler dans de bonnes conditions, avoir des projets qui ont du sens. C'est rare qu'on ait cet esprit-là.
Alors justement, on va enchaîner là-dessus sur la question de l'éthique des entreprises. Alors, ça va peut-être dériver un petit peu politiquement, mais finalement, vous parliez de licorne. Quand on est une très grande entreprise, prenons par exemple le cas de Uber ou, je sais pas, de Tesla, qui est peut-être moins dans les nouvelles technologies, mais passons, on est valorisé à des milliards de dollars, on ne fait pas forcément de bénéfices, donc on est totalement dépendant des actionnaires. Comment on peut finalement faire preuve d'éthique ou être dans une politique de développement de son éthique quand finalement tout peut s'arrêter du jour au lendemain parce que les actionnaires ne sont pas contents?
Alors il y a clairement une difficulté au niveau du modèle économique. Le modèle économique d'un certain nombre de sociétés, d'un certain nombre de start-up, pose difficulté, que ce soit au niveau des plateformes qui, dans certains cas, interrogent, on va dire, le droit de la concurrence ou un certain nombre de nos législations. Il y a également un problème de survie de ces entreprises, ce qui, bien entendu, pose des questions en termes d'éthique. Que faire, justement, pour rendre viable un modèle économique, pour le rendre pérenne, alors que, justement, dans certains cas, la valorisation n'est pas assise sur des bases solides. La question de l'éthique, c'est aussi de définir quels sont les principes que l'on veut respecter. Est-ce qu'il y a des principes communs? Est-ce qu'on peut avoir un socle éthique que l'on peut appliquer dans le numérique, que l'on ferait respecter et qui justement aille dans le sens d'un renforcement de la confiance des utilisateurs?
Et alors justement, comment on fait ça? Comment ça peut se mettre en place? On dit tech for good. Comment mettre en place finalement quelque chose qui soit relativement équilibré?
Enfin, nous, on appelle ça la décentralisation, le chiffrement de bout en bout, le logiciel libre. C'est des points qui ont l'air assez techniques comme ça, mais le fait de ne plus dépendre d'une grosse société pour sa communication, c'est extrêmement important. Le fait que nos communications soient chiffrées, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas écoutables, qu'on puisse pas l'écouter quand on s'appelle Facebook ou Google, c'est très important. Le fait que le logiciel qu'on utilise soit libre, c'est-à-dire que sa recette de cuisine est lisible, pas forcément par vous qui n'êtes pas technicien, mais vous pouvez demander à votre copain geek d'y jeter un œil ou aller voir des gens qui l'ont fait l'audit pour vous dire ouais c'est bon, c'est de confiance. Quand il n'y a pas au moins ces trois facteurs-là, il peut pas y avoir confiance. Quand on parle d'éthique des entreprises, la responsabilité sociale des entreprises, c'est pas nouveau, ça date de mémoire des années 60-70. À l'époque, on aurait dit quoi? Est-ce que vous pouvez avoir confiance en Total, en General Motors, en British Petroleum ou des grandes sociétés de l'époque? A priori non, et il fallait de la régulation. C'est par exemple pour tout ce qui est écologie, c'est par la régulation des États la plus stricte qu'on a réussi à obtenir, des fois au forceps, vraiment des petites choses sur le respect ou sur le code du travail. Donc je pense que les nouvelles technologies ne font pas exception. L'exception, ce qui est exceptionnel dans ces nouvelles technologies, c'est le côté immédiatement international. Uber, tout de suite, il travaille au niveau international. Ça n'empêche pas qu'on puisse faire respecter le droit du travail français en France, le droit du travail allemand en Allemagne, le droit du travail européen en Europe. Et donc, je pense qu'il faut juste s'armer politiquement et être capable de faire des bras de fer avec le grand frère américain.
Lucien Castex.
Alors, j'ajouterais qu'il y a effectivement une forte importance de l'éducation. Éduquer les citoyens, les utilisateurs au sens large pour qu'ils comprennent déjà comment Internet fonctionne, où sont les différents points d'achoppement. Et dès lors, en comprenant comment ça fonctionne, il y a une capacité à se responsabiliser. On parle souvent, on a parlé tout à l'heure, on a parlé des filtres. Mais est-ce que ce n'est pas quelque part apprendre l'esprit critique, être capable soi-même d'évaluer un contenu?
Merci beaucoup Lucien Merci. Castex, chercheur à l'Université Sorbonne Nouvelle et secrétaire général de l'Internet Society France. Merci à Benjamin Sontag, cofondateur Merci. De La Quadrature du Net. Cette émission a été préparée par Éléonore Krenik, réalisation signée Steven Elsley. Excellente journée à l'écoute de RFI.